Que Dieu soit béni pour cette soirée que nous passons dans sa présence. Le Seigneur aime la présence de ses enfants et nous, nous aimons sa présence. C'est réciproque, hein. Gloire à Dieu. Alors, on pourrait lire ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Dieu soit béni pour ce passage de la parole de Dieu. Ce soir, on va s'arrêter particulièrement sur le verset 17 que je vais relire, que nous connaissons par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou création, selon les versions, mais c'est pareil. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Après notre série que nous avons fait les mardis soirs sur la personne de Jésus, et aussi par rapport à ce que nous avons vu dimanche dernier dans l'épître de Paul aux Colossiens, il m'a semblé judicieux de nous arrêter sur ce verset ce soir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le genre de verset qu'on connaît tellement par cœur qu'on oublie parfois de réfléchir à tout ce qu'il nous apporte. Et c'est ce que nous allons faire. On va essayer de le voir à la loupe. Il y a des versets comme ça qu'on connaît. Mais c'est bien de s'y attarder et de voir tout ce que ce verset comporte. Il a une portée inestimable pour notre foi. Il fait ressortir avec force toute la grâce et il proclame une vérité extraordinaire pour nous. Les principales affirmations que nous allons faire ressortir dans ce verset sont celles-ci. L'importance, et ça c'est pour ce soir, l'importance d'être en Jésus-Christ. C'est important d'être en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ. Et c'est la condition nécessaire et suffisante pour que s'appliquent les promesses contenues dans ce verset, car il y a des promesses dans ce verset. Nous verrons aussi l'importance d'être une nouvelle créature, l'importance de ce que sont devenues les choses anciennes. Elles sont passées, terminées. Et l'importance de la perspective des choses nouvelles. Qui est concerné par ce passage et les promesses qui vont avec? C'est quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, ce quelqu'un, c'est aussi quiconque. On retrouve, ce quiconque, par exemple, dans un autre verset qu'on connaît très bien, Jean 3,16. Car quiconque, celui qui aime, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Quiconque ou quelqu'un, c'est n'importe qui. On peut englober n'importe qui que l'on puisse connaître, même les pires dans ce monde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, création, selon les versions. Et là, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, la condition pour la suite de ce verset, c'est-à-dire que toutes les choses deviennent nouvelles, eh bien, c'est d'être en Christ. Trop souvent, c'est l'homme qui pose ses conditions à Dieu. Si tu me guéris, alors, Seigneur, je te promets que je ferai ça. Si tu me bénis, alors, je ferai ça. C'est un peu comme Jacob, hein. Il faisait des si à Dieu. Il posait ses conditions. Et parfois, on pourrait, nous aussi, nous surprendre à faire de telles choses, poser des conditions à Dieu. Mais là, c'est l'inverse. C'est Dieu qui pose une condition. La parole de Dieu pose une condition. Si quelqu'un est en Christ, la condition que nous allons voir, c'est d'être en Christ. Et c'est ça qui est important pour nous et qui concerne n'importe qui s'approche du Seigneur. On retrouve ces expressions « si quelqu'un est quiconque » dans la parole de Dieu, par exemple. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Ça peut être n'importe qui. Le brigand sur la croix, c'était quiconque. J'allais dire, c'était quelqu'un qui avait fait des choses abominables, mais un jour, il a mis sa foi en Christ. Ça va de lui, ça va à Nicodème, des gens totalement différents, riches comme des pauvres, des gens bien comme des gens beaucoup moins bien. Quiconque a mis sa foi en Jésus-Christ est sauvé, il devient une nouvelle créature. Alléluia. Alors merci Seigneur. Nous voulons être ce quelqu'un qui est en Christ et qui, pour qui toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, c'est notre responsabilité à nous, à chacun. Ce verset, puisqu'il nous pose une condition, nous responsabilise. Ça nous responsabilise pour chacun d'entre nous d'être en Christ. D'être en Christ. Au travers de ce verset, la parole de Dieu nous responsabilise. Merci Seigneur. Alors, bien souvent, pour comprendre ce que comporte une expression, on peut la prendre à l'opposé pour voir ce qu'elle n'est pas. Si quelqu'un n'est pas en Christ, nous avons connu ça les uns les autres. Il fut une période de notre vie où nous n'étions point en Christ. Cette période-là est révolue. Il y a eu une période de notre vie où nous n'étions point en Christ. Si quelqu'un n'est pas en Christ, bien sûr, promesse de ce verset ne s'applique pas pour lui. S'il n'est pas en Christ, ça veut dire qu'il est sans Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13, on peut même lire à partir du verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a souvent cette expression « en Christ » qui revient. Et d'ailleurs, dans le chapitre 2, elle revient à plusieurs reprises. On en a vu là deux, trois exemples. Nous étions sans Christ, et c'est terrible d'être dans ce monde en étant sans lui. Nous avons connu ça, nous n'avions aucun recours. Mais maintenant, nous sommes en Christ, bien sûr, avec lui. On le verra aussi. Mais c'est vrai que nous étions sans Christ. Et quand on est sans Christ, on est loin de lui. On est éloigné du Seigneur. On se retrouve dans la situation d'Adam et Ève qui, lorsqu'ils ont péché, se sont vus, ont découvert qu'ils étaient nus. Ils se sont, comme il est écrit, éloignés de la face de l'Éternel. Ils étaient eux qui étaient près du Seigneur, qui pouvaient parler à Dieu comme un homme parle avec un autre, avec un ami. À un moment donné, ils ont été séparés, non seulement séparés, mais éloignés. Voilà ce qu'apporte le péché, il apporte une séparation, la première séparation qui a lieu, c'est une séparation entre Dieu et l'homme. À partir de ce moment-là, l'homme, l'être humain, a été éloigné du Seigneur, et c'est une réalité que nous avons vécue les uns et les autres, et nous ne voulons plus que ça nous arrive. Nous ne voulons plus être éloignés du Seigneur, nous voulons être restés tout proches du Seigneur. Nous voulons être en lui, auprès de toi, et la source du bonheur, la source de la joie. Que le Seigneur soit glorifié. On peut être sans Christ, on peut être éloigné de lui, on peut être contre lui, on peut être même ennemi de Dieu. Ça, c'est si on est ennemi de Dieu, si on est contre lui, on ne peut pas être en lui. Dans Jacques chapitre 4, verset 4, juste un exemple, Jacques chapitre 4, verset 4, alors c'est vrai que cette épître de Jacques, elle est assez sévère dans certains versets. Verset 4, il dira « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, c'est vrai que cette épître est assez sévère, mais il faut dire que Jacques parle... À des personnes qui avaient une foi superficielle. C'était même une croyance, il le dira. Hein. Les démons croient aussi que Dieu existe et ils tremblent. Hein. Au moins, eux, ils tremblent. Mais vous, vous ne tremblez même pas, hein, quelque part. C'est vrai qu'ils n'avaient pas cette crainte de Dieu. Ils n'avaient pas cette crainte de Dieu. Leur foi était stérile. C'est pour ça qu'il va parler des œuvres que va produire la foi. Sans ces œuvres, la foi, elle est morte. Et malheureusement, eh bien, ils pouvaient se dire chrétiens, mais en fin de compte, ils n'en montraient point les fruits, puisque en fin de compte, ils se rendaient amis du monde. Ils vivaient comme, j'allais dire, comme s'ils étaient sans Christ dans ce monde. Et il leur dira, celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et comment être en Christ si on est ennemi de Dieu ? C'est impossible, c'est impossible. Alors, on peut être sans Christ, soit parce qu'on est indifférent, soit parce qu'on est contre Dieu, on est ennemi de Dieu. Et là, bien sûr, il y a des réalités spirituelles à laquelle on échappe. Jésus dira, et je l'ai cité souvent ces derniers temps, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, lorsqu'il parle du cep et des sarments, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, » on retrouve encore cette expression, cette même pensée, « demeurez en lui, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Il nous faut être en Christ, et je dirais y demeurer. Hein. Y demeurer. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits. Dans ce verbe demeurer, il y a une idée de persévérance. Alors, comment parvenir à être en Christ ? Comment parvenir à être en Christ ? C'est vrai que cette expression demeurer en Christ, être en Christ, peut sembler pour certains assez abstraite. Ça veut dire quoi exactement et comment y parvenir ? Et il faut bien comprendre que cette expression qu'emploie l'apôtre Paul et qu'il décrit par ces mots est d'abord et avant tout une expérience spirituelle. C'est une expérience spirituelle. C'est pas une théorie, c'est une expérience spirituelle que nous vivons. Et cette expérience est le fruit d'une démarche de foi, de repentance, et de conversion. La conversion, c'est la part de l'homme. La régénération, ça, c'est la part du Saint-Esprit. C'est lui qui le fait. Hein. Et il y a notre démarche, une démarche de foi vis-à-vis du Seigneur qui ne peut passer que par la réconciliation. D'ailleurs, tout à l'heure dans le texte que nous avons lu, c'est pour ça que j'ai tenu à le lire en entier, l'apôtre Paul, juste après, nous dit « Et tout cela vient de Dieu, ce n'est pas notre initiative, il faut bien le comprendre. C'est lui qui nous a aimés le premier, tout cela vient de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu, et c'est lui qui nous a réconciliés. On ne peut pas être en Christ si on ne passe pas par cette réconciliation. » Je disais tout à l'heure, et c'était important d'en parler, qu'on peut être contre lui, sans lui, ennemi de Dieu. Et nous avons besoin à ce moment-là d'être réconciliés. Réconciliés, ça passe donc par une réconciliation que l'on saisit par la foi en nous repentant et en saisissant le pardon que Dieu nous accorde en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu nous as réconciliés avec toi en Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié. Alors ça commence bien sûr par cette repentance. Et c'est bien d'avoir saisi à un moment donné qu'on est loin du Seigneur et qu'on a besoin de se rapprocher de lui. Tout à l'heure, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 13, on a lu ce verset, je vais le relire rapidement. « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. » Alléluia. Hein. « Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Nous étions éloignés, mais nous a rapprochés par le sang de Christ. Et quand on voit quelqu'un au fond de la rue, là, au loin, on a du mal à distinguer qui c'est exactement. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette personne, on va voir peut-être la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, on va voir qui est cette personne, etc. Et puis on va le reconnaître cette personne. Et de la même manière, plus on s'approche du Seigneur, mieux on le connaîtra. Mieux on le connaîtra. Et nous voulons nous approcher du Seigneur. Alléluia. C'est bien sûr lui qui en a pris l'initiative, qui a fait le premier pas. Et il nous invite dans sa parole aussi à nous approcher de lui. D'ailleurs, Jacques, on lisait Jacques tout à l'heure, un peu plus loin au verset 8, il dira « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Dans Ésaïe 65, verset 1er, il est parlé que Dieu s'est même laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient pas. Dieu se laisse trouver, il s'est approché et il nous invite à nous approcher. Il y a un pas que Dieu ne fera pas à notre place, parce que c'est à nous de le faire, c'est à nous de le faire. Alors il nous faut venir bien sûr pour nous approcher de lui, il nous faut venir vers Jésus. Ça commence bien sûr évidemment à la conversion, mais pas que. On a besoin des fois dans notre vie aussi de venir, ou plutôt de revenir vers lui. J'aimerais prendre juste l'exemple de Bartimée l'aveugle. Vous connaissez Bartimée l'aveugle qui criait parce qu'il avait entendu que Jésus passait par là. Il était assis au bord du chemin et il mendiait quelques pièces pour pouvoir manger. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas peut-être toutes les aides sociales qui peuvent exister aujourd'hui. Même aujourd'hui, dans certains pays, lorsqu'on est aveugle, on n'a rien. Nous l'avons vu lorsque nous étions au Maghreb. Quand on a un handicap, quand on a un problème, on n'a pas d'autre choix que de mendier. Et c'est la réalité pour cet homme. Mais il a entendu parler que Jésus guérit les malades. Il redonne la vue aux aveugles et il crie à Jésus « Aie pitié de moi !» Et certains essayent de le faire taire jusqu'au moment où Jésus va l'appeler. Alors cet homme, il est écrit dans la Bible qu'il va venir vers Jésus. J'aime bien cette expression. Il va le faire en tâtonnant. Cet homme est aveugle, il ne voit pas. Il peut se diriger simplement par rapport à ses oreilles. Il sait que Jésus est à peu près dans cette direction. Il l'a entendu appeler, donc il sait que c'est plus ou moins à sa droite ou à sa gauche, il a entendu la voix, mais il tâtonne, il est là, jusqu'au moment où il va se trouver devant Jésus. Et Jésus va lui ouvrir les yeux. Et il nous a dit quoi après ? Il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Donc il est venu vers Jésus, il a fait une rencontre et après il l'a suivi. C'est là notre démarche qui s'est passée lorsque nous sommes convertis au Seigneur Jésus. Ou peut-être c'est des personnes qui nous ont amenés dans Jean chapitre 1, l'évangile selon Jean chapitre 1er, verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Voilà. Donc, quelqu'un a amené une autre personne vers Jésus. Ça, c'est, j'allais dire, c'est ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants du Seigneur. On ne peut pas faire plus. Nous ne pouvons pas mettre quelqu'un en Christ. On ne peut pas. Par contre, on peut guider les personnes vers Jésus. Ça, c'est le rôle de tout un chacun. Et que Dieu nous aide dans cette service, dans ce travail, dans ce ministère-là, et que nous puissions en conduire vers Jésus. Après, ils auront leur démarche de conversion, mais ça, on ne peut pas le faire à leur place. Ce sera leur démarche de mettre leur foi en Jésus-Christ, mais nous pouvons les conduire. Donc ça commence par ça, et les personnes sont conduites, ou elles-mêmes viennent à Jésus, sont conduites vers Jésus, et ils découvrent qui est la personne de Jésus. Donc ça commence par là, mais bien sûr, c'est pas être en Christ encore. Comprenez ? Il y a bien des personnes qui, oui, qui ont se sont rapprochées de Jésus, mais qui ne sont pas encore en lui. Ils peuvent même parler de Jésus, mais ne sont pas encore en lui. Il y a des personnes qui sont pour Jésus dans le sens qu'ils ont une opinion favorable. Ils ont une opinion favorable pour Jésus. On en voit dans les évangiles. Et bien sûr, on est avec Jésus. Avec Jésus. Ça nous parle d'une relation qui s'est établie. Et puis, bien sûr, comme dit l'apôtre Paul, on peut être de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Mais revenons à notre expression qu'on trouve dans le passage, notre verset 17 de ce soir. Être en Jésus-Christ. Alléluia. Être en Jésus-Christ. C'est là notre place. C'est une position de foi et de salut. Être en Jésus-Christ, c'est recevoir une nouvelle identité, une nouvelle créature, on en parlera. Une nouvelle identité, nous sommes une nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est terminé ce qui était avant, mais maintenant nous sommes en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, c'est Christ que Dieu voit. Ça, c'est important de le souligner. C'est Jésus qu'il voit. Il ne voit plus notre péché, mais il voit Jésus-Christ. Amen. Si je mets un vêtement, vous ne voyez pas ma peau. Hein, mais si je n'en mets pas, je serai à découvert. Et ainsi, nous sommes en Christ, nous avons revêtu la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alors pour bien comprendre ce que je veux dire, j'aimerais prendre quelques images de la parole de Dieu. Tout d'abord, et j'en ai parlé déjà, d'Adam et Ève. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Être en Christ, c'est être comme Adam et Ève lorsque ils ont revêtu des habits de peau. Et là, c'est encore Dieu qui leur a procuré ces habits de peau. Il a fallu qu'un animal meure, peut-être au moins deux, peut-être, puisqu'ils étaient deux, Adam et Ève. Donc, il a fallu qu'il y ait un sacrifice pour qu'ils soient recouverts. Donc, être en Christ, c'est être comme Adam et Ève lorsqu'ils étaient dans ces habits de peau. On ne voyait plus leur nudité et on voit qu'à cause de cela, à cause de cette nudité, il y avait un problème relationnel entre Dieu et eux. Et même l'un vis-à-vis de l'autre, on voit que cette belle harmonie qu'il y avait dans le couple a connu quelques embrouilles, j'allais dire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait donc un dilemme, quelque part. Mais là, ils étaient dans ces habits de peau. Ça, c'est ce que Dieu fait. Et nous savons que nous trouvons notre justification seulement dans la personne de Jésus-Christ. Nous avons revêtu la personne du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas être justes de nous-mêmes. C'est Jésus-Christ et c'est par lui et c'est en lui que nous trouvons notre justice auprès de Dieu, que son nom soit glorifié. Être en Christ, c'est aussi être comme Noé et sa famille dans l'arche. On connaît tous cet épisode de la parole de Dieu, de cette histoire de l'humanité. Noé s'est réfugié avec sa famille dans l'arche. Il avait bien sûr été averti un siècle auparavant. Il a eu un siècle pour construire cette arche. Et Noé, avec sa famille, a pu échapper ainsi à ce déluge qui était conséquence de la violence qui régnait sur cette terre, de la corruption qui était sur cette terre. Il y a eu un châtiment qui s'est opéré, une condamnation qui s'est opérée sur la terre entière. Qu'est-il écrit dans Romains chapitre 8, verset 1er ? Un autre verset qu'on connaît par cœur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes ainsi comme Noé dans l'arche, nous échappons à la condamnation. Que Dieu soit béni, amen. Christ a payé pour nous. Et si nous sommes en lui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alléluia. Être en Christ, encore une troisième image, c'est être comme Moïse dans le creux du rocher. Pour ceux qui prennent des notes, Exode 33, verset 22. Moïse fait cette prière, « Fais-moi voir ta gloire. » Fais-moi voir ta gloire. Alors, Dieu va dire de le mettre dans le creux du rocher. Et là, il pourra voir, mais seulement par derrière. Hein. Il ne pourra même pas voir. Ma face ne pourra pas être vue, dira le Seigneur. Dans le creux du rocher, Dieu a fait passer sa gloire et Moïse a vu à ce moment-là. Lorsque nous sommes en Christ, c'est là que nous avons la vision de la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la gloire de Dieu, le Père. Comprenez ? Jésus-Christ est la gloire de Dieu, le Père. Et lorsque nous sommes en lui, nous voyons cette gloire. Personne n'a jamais vu Dieu, mais celui qui nous l'a fait connaître, c'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voyons cette gloire magnifique manifestée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Être en Christ, encore une autre image, c'est être comme David, qui s'est réfugié dans la caverne d'Adullam alors qu'il était pourchassé par Saül et les soldats de Saül. Saül s'est réfugié dans cette caverne-là et il a pu échapper. Mais David sait bien qu'il ne doit pas son salut à une caverne puisqu'il exprime que dans 2 Samuel chapitre 22 et notamment aussi dans Psaume 18 à cette occasion, que son refuge, c'est le Seigneur. Que son rocher, son abri, c'est le Seigneur. Et lorsque nous sommes en Christ, le malin ne nous touche pas. Alléluia. Le malin ne nous touche pas. Il ne peut pas nous toucher. Et pour cause, il a une peur terrible de Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Il a une peur terrible. Il n'y a pas de meilleur moyen pour faire fuir le diable. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Se soumettre à lui, c'est d'être sous lui. Amen. Il nous faut être en Christ. Le malin ne nous touche pas. Et nous voulons demeurer en lui. Prenons juste le proverbe 18. Proverbe 18. Le nom de l'Éternel est une tour, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Alors après, il est parlé du riche qui se croit en sécurité dans sa forteresse dorée, là. Verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Ça, c'est ce qu'il s'imagine. On peut s'imaginer des choses, mais en fin de compte, ce n'est pas la réalité. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est sûr et certain, c'est que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et nous sommes en sûreté dans cette tour forte. Le malin ne nous touche pas. Nous sommes à l'abri des intentions de Satan qu'il a à notre égard. Jésus est celui qui nous garde. Alléluia. Nous sommes donc là dans une position de foi en Christ. Et nous voulons nous rappeler encore que c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Alléluia. Merci Seigneur pour tes meurtrissures. À lui soit toute la gloire. Il y a des bénédictions extraordinaires du fait d'être en Christ. On retrouve cette expression à maintes reprises dans la parole de Dieu. J'aimerais juste en lire les 3 ou 4 comme ça rapidement. Dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. On peut lire encore au chapitre 2 de la même épître, au verset 14. Ce verset 14 est extraordinaire. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Amen. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il nous fait de toute manière, toujours, j'aime bien ce toujours, triompher en Christ. Alors avant de triompher, bien sûr, il y a le combat. Pas de triomphe sans combat. Mais nous sommes sûrs de la victoire. Ce n'est pas parce que nous sommes sûrs de la victoire qu'il ne faut pas combattre. Non, bien sûr, il nous faut combattre. Et pour nous, notre sécurité, elle se trouve en Christ. Et il nous fait de toute manière toujours triompher en Christ. Mais en Christ seulement, en Christ, que son nom soit glorifié. Bon, il y a bien d'autres passages que nous pourrions lire ensemble par rapport au fait d'être en Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. On peut lire aussi dans Philippiens, un dernier peut-être, Philippiens chapitre 4, Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Des fois, on se démène avec nos pensées et avec notre cœur aussi. L'angoisse peut nous saisir, le stress peut nous saisir, les inquiétudes. Pour là, nos pensées vont dans tous les sens. Voire elle papillonne, on a du mal à canaliser. Mais rappelons-nous que, bien sûr, avant, il nous est rappelé de prier le Seigneur, mais il nous dit que nos cœurs et nos pensées seront gardés en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur, il a tout pouvoir. Il est celui qui fait toute chose nouvelle, qui nous régénère sans cesse. Il est celui qui garde nos cœurs et nos pensées. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Oui, si quelqu'un est en Christ, nous voulons être en Christ et y demeurer. Donc nous voulons entrer pour être en Christ. Il faut entrer dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, nous l'avons commencé le jour où nous avons dit oui au Seigneur lorsque nous nous sommes convertis. Nous l'avons confirmé, j'allais dire, d'une manière officielle par le baptême. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur le baptême aussi. Il est écrit que si nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Je rappelle que le terme baptisé, c'est immergé. On est plongé en Jésus-Christ. Alléluia. En Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ. C'est extrêmement important. La signification du baptême est extrêmement importante lorsque nous réalisons ce que c'est et nous voulons vraiment croire que nous sommes plongés en Christ, immergés en Christ, baptisés en lui. Nous sommes en lui et nous demeurons en lui. Nous demeurons en lui. Que Dieu soit béni. Nous avons lu deux ou trois reprises cet an dernier un passage et j'aimerais le lire ce soir encore pour la conclusion de notre message. C'est dans Colossiens. On retourne dans cet épître Colossiens. Au chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Nous sommes ressuscités. On parlera un jour, peut-être lorsqu'on verra que nous sommes des nouvelles créatures, de l'impact énorme de la résurrection de Christ. Alors, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous cherchons les choses en haut. Amen. Notre espérance, comme nous le disions récemment, elle n'est pas sur cette terre. Et si nous espérons en Christ seulement pour cette terre, dira l'apôtre Paul, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais si nous espérons en Christ, ce n'est pas simplement pour qu'il nous bénisse sur cette terre. Alors bien sûr, Seigneur, nous avons besoin de certaines choses pour pouvoir vivre sur cette terre. Mais notre espérance en Christ, elle ne repose pas simplement pour les bénédictions terrestres. Elle concerne les choses d'en haut. Amen. Et c'est à ces choses-là que nous voulons nous affectionner. Rappelons-nous que nous sommes en Christ. Notre vie, elle est cachée avec Christ, en Dieu. Amen. Que son nom soit glorifié. Comme Moïse qui était caché dans le creux du rocher, comme Noé qui était là aussi avec sa famille, quelque part aussi caché hein, dans l'arche, comme Adam et Ève. Aussi, quelque part, cachés dans ces habits de peau, on ne pouvait plus voir, leur nudité était cachée. Nous sommes en Christ. Merci Seigneur. Nous sommes en Christ. Et comme dira l'apôtre Paul par ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que si nous sommes en lui, lui, il est en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que son nom soit béni. Amen. On va prier ensemble, Seigneur. Merci Seigneur de nous rappeler que nous sommes en toi et qu'il nous faut être en toi, Seigneur, si quelqu'un est en Christ. Seigneur, nous qui étions jadis éloignés, tu nous as non seulement rapprochés, mais tu nous as fait pénétrer dans ta personne, en toi, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler de plus en plus, d'être transformé de gloire en gloire à ta ressemblance. Ô béni soit ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous voulons rester dans le creux de tes mains. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Plus jamais nous voulons nous éloigner de toi, mais nous voulons persévérer en toi, Seigneur Jésus. Merci, nous voulons que le plus grand nombre vienne vers toi et aide-nous à les conduire vers toi, mais Seigneur, qu'ils puissent entrer en toi, Seigneur, qu'ils puissent demeurer en toi. Te prions pour cela, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, à toi soit toute la gloire. Merci pour les promesses qui sont attachées à cette foi-là, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais, pour l'espérance de la gloire que tu as mis dans nos cœurs. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Jésus, merci, parce que nous sommes ressuscités avec toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu as fait de nous des nouvelles créatures. Merci, Seigneur.